Nous sommes le 7 octobre et c'est peu dire que c'est un jour particulier en Israël.
En Israël, où nous allons retrouver tout de suite notre envoyé spécial, Daniel Fontaine. Daniel, vous étiez aujourd'hui sur le site du festival Nova de Sinistre Mémoire.
Oui, aujourd'hui en Israël, c'est à la fois une fête religieuse et traditionnelle, le Soukhot, mais surtout la commémoration un peu partout dans le pays de l'attaque du Hamas il y a 2 ans. Alors, l'endroit où nous sommes allés, là où 370 festivaliers du Nova ont été massacrés, eh bien, c'est devenu un lieu emblématique de cette journée. Une photo de chaque victime est placée sur un poteau et les portraits forment comme une forêt de visages de jeunes souriants, mais aujourd'hui disparus. Plus loin, les familles ont créé des mausolées à l'endroit précis où leurs enfants avaient installé leur tente pour le festival. Je vous propose d'entendre un jeune habitant de la région qui est venu ce matin.
Nous connaissons beaucoup de gens ici. Des gens qui ont grandi avec moi. C'est très triste. Nous devons nous souvenir, ne jamais oublier. Être ici n'est pas simple pour nous. Vous voyez les milliers de personnes qui sont venues ici. Le monde entier doit voir ça. Le monde entier doit comprendre ce qu'ils nous ont fait.
Beaucoup de tristesse et d'émotion, vous l'entendez, mais aussi de l'incompréhension et de la colère. Plusieurs personnes nous disent ne pas comprendre l'échec des services de sécurité israéliens, de l'armée, du gouvernement. L'État d'Israël n'a pas réussi à protéger ses citoyens et ça crée une rupture de confiance qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, entre autres parce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a refusé depuis 2 ans la création d'une commission d'enquête indépendante sur le 7 octobre en prenant prétexte de la guerre à Gaza.
Ouais, cette guerre à Gaza qui se poursuit aussi depuis 2 ans avec un bilan terrible. On sent cette guerre là où vous étiez aujourd'hui sur le site du festival Nova ?
Oui, alors durant toute la matinée, on a entendu les tirs d'une batterie d'artillerie toute proche qui bombardait Gaza régulièrement. Vous entendez voilà, ces tirs enregistrés ce matin par Christophe Bernard. Nous sommes aussi rendus devant la caserne de Nahal Oz qui avait été attaquée le 7 octobre par un commando palestinien. C'est la base militaire la plus proche de la bande de Gaza. La barrière de séparation est à 500 mètres et la ville de Gaza à 3 km. Là, nous étions clairement dans une ambiance de guerre. Des drones en permanence, des hélicoptères, une rafale de mitrailleuses et des explosions avec des panaches de fumée noire qui se sont élevées au-dessus de la ville de Gaza et de Jabalia à côté. Ça s'est passé sur la vingtaine de minutes que nous sommes restés à cet endroit-là. Pourtant, les habitants de Gaza disent que les bombardements ont baissé en intensité, cela depuis l'acceptation de principe du plan Trump. Mais de ce que nous en avons vu, à quelques centaines de mètres de distance, les opérations militaires israéliennes se poursuivent bel et bien.
Daniel, vous avez eu aussi l'occasion de vous rendre en Cisjordanie, occupée ces derniers jours. Quelle est l'ambiance là-bas ?
Oui, nous sommes allés à plusieurs endroits clés de la Cisjordanie, à l'est de Jérusalem, là où la colonie E1 pourrait couper en deux la Cisjordanie, à Hébron, où les confrontations entre colons juifs et habitants palestiniens sont quotidiennes, et aussi dans une colonie juive près de Ramallah. À tous ces endroits, eh bien, la tension est forte, elle est montée de plusieurs crans depuis 2 ans, sans jamais redescendre. En tant que journaliste, nous avons l'occasion d'aller parler aux deux populations et je peux vous dire que le niveau de méfiance, voire d'hostilité mutuelle, eh bien, il est très élevé. En revanche, et je termine avec ça, nous ne pouvons toujours pas entrer dans la bande de Gaza. Nous devons toujours nous reposer sur le travail de nos confrères palestiniens pour savoir ce qu'il s'y passe. Des journalistes palestiniens qui poursuivent leur travail au risque de leur vie.
Daniel Fontaine, merci à vous. Vous êtes sur place en Israël avec l'appui technique de Christophe Bernard. Il y a 10 ans, le 10 octobre 2015, la Turquie subissait l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Devant la gare d'Ankara, 2 hommes se faisaient exploser dans une manifestation.
104 morts, des centaines de blessés. L'attentat a été attribué au groupe État islamique. Un procès a eu lieu. Mais pour les victimes et leurs familles, la justice est loin d'avoir été rendue.
Anne, vous êtes avec nous en direct d'Ankara. Rappelez-nous d'abord le contexte, s'il vous plaît, de cet attentat.
Oui, parce que le contexte est particulier. En effet, en cette année 2015 donc, et l'année suivante 2016, la Turquie subit coup sur coup une vingtaine d'attentats attribués soit au groupe État islamique, comme pour celui de la gare d'Ankara, soit au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, avec lequel l'État turc à l'époque vient tout juste de rompre des pourparlers de paix. Et à Ankara, le 10 octobre 2015, les manifestants demandaient justement la paix et la démocratie. C'était à l'appel de partis, d'ONG et de syndicats de la gauche pro-kurde.
Depuis cet attentat, chaque 10 du mois, des rescapés et proches de victimes réclament justice sur les lieux de l'attaque. Pourquoi, Anne ?
Alors, il y a bien eu un procès qui a duré 2 ans. En août 2018, 9 accusés ont été condamnés à la prison à vie. 9 autres ont reçu des peines moindres. Une quinzaine de suspects sont toujours recherchés. Mais les victimes et leurs familles estiment que c'est une justice incomplète, que l'enquête et le tribunal n'ont jamais cherché à faire la lumière sur ce double attentat. Mehtap Sakinci, qui a perdu son mari, est avocate ici, fondatrice de l'association du 10 octobre pour la paix. Elle dénonce notamment le fait qu'aucun officiel turc n'a jamais été mis en cause pour de probables négligences. Elle cite notamment la sécurité très insuffisante autour de ce rassemblement, les alertes du renseignement qui n'ont pas été prises en compte, les éléments à charge non versés au dossier. On l'écoute.
L'un des renseignements transmis à la police avant le 10 octobre évoquait la possibilité d'un attentat-suicide de Daesh, commis par au moins 2 personnes contre un grand événement type meeting. Une autre alerte était venue des parents d'un terroriste qui s'était fait exploser 3 mois plus tôt dans un groupe de jeunes, à la frontière turco-syrienne. Ils craignaient que leur autre fils ne fasse la même chose. Et c'est ce qu'il a fait devant la gare.
Mais il y a autre chose, Anne, qui blesse les victimes du 10 octobre 2015.
Eh bien, justement, l'impression de ne pas être des victimes aux yeux d'une partie de la société turque. Pourquoi ? Parce qu'ils manifestaient en faveur de la paix avec le PKK, un groupe considéré comme terroriste par la Turquie. Mehtap Sakinci l'a ressenti, par exemple, quand une minute de silence en hommage aux victimes a été copieusement sifflée au début d'un match de football de l'équipe nationale. C'était 3 jours seulement après l'attaque. Mais parfois, c'est aussi dans sa vie quotidienne, comme par exemple sur le groupe WhatsApp de la classe de son fils.
L'une des mères a écrit « C'est très triste, toutes mes condoléances. Mais qu'est-ce que votre mari faisait dans ce meeting ?» Ou encore la question qu'on m'a le plus posée, c'est « Vous êtes kurde ? Non ? Mais alors, vous aimez les kurdes ?»
Les victimes de l'attentat du 10 octobre 2015 manifestaient pour la paix et la démocratie. Ont-elles été au moins entendues ?
Absolument pas. Pendant la décennie suivante, la Turquie a plongé dans un cycle de violence et de recul démocratique. Mais depuis environ 1 an, les autorités d'Ankara ont repris leurs efforts de paix avec le PKK, qui a même annoncé en mai son intention de désarmer. Face à ces fragiles espoirs de paix, beaucoup de victimes de l'attentat d'Ankara sont à la fois satisfaites et amères, mais aussi sceptiques, à la fois sur les intentions du gouvernement et sur celles du PKK, à l'image finalement d'une bonne partie de l'opinion publique ici. Selon un sondage récent de l'Institut Ravest, qui est spécialisé dans la question kurde, 70% des habitants de Turquie soutiennent le processus de paix, mais 40% seulement pensent qu'il va réussir.
Anne Handlauer à Ankara, merci à vous. Et on termine ce carrefour à Verviers qui vient en quelque sorte de récupérer une partie de son territoire.
Une immense surface que la ville, début des années 2000, avait eu l'idée de vendre à un promoteur immobilier pour en faire un immense centre commercial, un fiasco total, une saga de plus de 20 ans.
François, c'est donc retour au propriétaire initial, à savoir la ville.
Et oui, alors pour visualiser, vous prenez la Vesdre, en entrée de centre-ville d'un côté comme de l'autre. En gros, tout, galerie, commerce, logement, a été vendu à City Mall pour son projet. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un immense chancre. Et ce matin, donc 10 000 mètres carrés sont revenus à la ville de Verviers, le bourgmestre Maxime Degé.
Depuis 9h30 ce mardi, nous sommes propriétaires de l'ensemble du site. C'est un site stratégique et c'était important à la fois pour le post-inondation et à la fois pour le bien du centre-ville de remettre la main sur ce site avec l'objectif de protéger la ville via un réaménagement des berges et puis de réaménager le reste du site pour une vocation sans doute économique.
La ville doit débourser 2,5 millions pour retrouver ce qui lui appartenait, finalement. C'est l'avant-dernier épisode d'un feuilleton dramatique, Françoise.
On espère que c'est l'avant-dernier épisode dramatique parce que ces ruines ont littéralement fait fuir clients et autres commerces. À l'origine, il était quand même question de 30 000 mètres carrés, vous imaginez, de surface commerciale, de logements avec couverture de lavesdre, avec passerelle. Le projet a été revu, revendu, racheté par Citymo. Le Conseil d'État s'en est mêlé. Et en 2018, Patrick Huon, le boss de Citymo, annonçait d'ailleurs fièrement.
C'est à trop durer. Et donc aujourd'hui, nous, on se cale absolument et définitivement sur l'année 2019. On doit vraiment commencer les travaux, le construire et le commercialiser. Et quand vous aurez sur les trottoirs quelques millions de consommateurs qui vont se balader chaque année, je crois qu'effectivement, il n'y a pas meilleure réponse pour faire revivre le commerce d'aujourd'hui.
Oui, mais des millions de consommateurs, Françoise, il n'y en a jamais eu. Ça ne s'est jamais fait. Le Covid et les inondations sont aussi passés par là.
Et oui, et c'est un créancier bancaire du promoteur qui a mis un terme à tout cela. La ville de Verviers a donc négocié le rachat au grand soulagement des riverains et des commerçants qui restent encore.
Très content qu'au moins la ville puisse récupérer une partie de ce que les Verviétois ont perdu dans cette opération.
Maintenant, que va-t-on faire, évidemment, de tous ces terrains ?
Une très bonne chose. Et enfin, on sort de ça et je pense qu'on va vers du bon. Donc pour moi, des espaces verts, un espace convivial, il ne faut pas d'habitat pour moi.
Je disais avant-dernière étape tout à l'heure, Françoise, car maintenant... Il y a cette question, que va-t-on faire de toute cette surface ? Comment va se terminer l'histoire ?
Eh bien, il va falloir démolir ce qui reste, car il y a encore des maisons. Finir les travaux des berges, ça c'est dû aux inondations, c'est l'urgence. Et puis, il n'y aura plus de construction partout, comme le confirme d'ailleurs l'échevin des travaux, Alexandre Loffet.
En tout cas, ce qui est directement le long de la Vestre, oui. On veut réaménager tout le quai sans y reconstruire quoi que ce soit, et ici aussi. Sur le site des Galeries Vos, il y a sans doute un potentiel de reconstruction, mais qu'il faudra adapter, ce ne sera peut-être pas reconstruire tout le site comme il était avant.
Et puis, chat échaudé craint l'eau froide, plus question de promoteur privé.
Maintenant, ce sera la ville parce qu'en plus, c'est dans le cadre des aménagements résilients pour lesquels nous sommes subventionnés. C'est la ville qui va non seulement piloter l'étude, la faire valider dans la modélisation hydraulique et les réaliser.
Alors évidemment, maintenant, les Verviétois n'espèrent plus qu'une chose, un fameux coup d'accélérateur pour rendre enfin, 25 ans après, un visage accueillant à toute cette partie ouest du cœur de la ville.
Françoise Dubois.